Bonjour à tous, bienvenue pour cette table ronde qui sera consacrée aux états généraux de l'imaginaire, donc comment valoriser la littérature de l'imaginaire. Donc c'est une table ronde un petit peu spécifique, peut-être beaucoup moins culturelle que les autres, mais beaucoup plus engagée, beaucoup plus activiste, donc nous sommes heureux de vous accueillir, de voir que vous êtes évidemment nombreux. Et donc, on va parler aujourd'hui des états généraux de l'imaginaire. Alors, on va essayer de présenter, je dirais, de vous donner le plus d'informations possibles, de pistes, puisque ce projet est en cours d'élaboration. Et après, nous vous laisserons quand même une bonne partie du temps pour éventuellement poser des questions, en parler, etc. Parce que je pense que ce projet suscite évidemment de nombreuses interrogations. Voilà. Donc avant, je vais quand même présenter donc, nos intervenants. Donc à côté de moi, j'ai Simon Pinat, qui est éditeur et cofondateur en 2009 des éditions Critique, avec Éric Marcelin, qui je crois est impliqué dans le projet. Hein, voilà. Donc Simon, après des études scientifiques et la préparation d'un master en lettres modernes et des métiers d'édition, eh bien, il s'occupe désormais donc aussi au sein de cette maison d'édition qu'il a lui-même fondée, du choix des textes et de la direction donc, de la plupart d'entre eux. Les éditions Critiques s'efforcent de défendre évidemment la littérature populaire dans les domaines de ce qu'on appelle les mauvais genres. Bon, je sais pas, on ne va plus les appeler les mauvais genres, parce que c'est... Hein, voilà. De la science-fiction, de la fantasy, du fantastique, du polar, et elles comptent désormais 80 titres à leur catalogue. C'est ça ? Je ne me trompe pas sur les chiffres, parce qu'on va parler un petit peu chiffres aussi aujourd'hui. Ensuite, j'ai Nathalie Veil, qui est gérante, donc avec son mari Frédéric Veil, des éditions Nemos. Nemos est une maison d'édition qui existe vraiment depuis 21 ans, qui est située dans le Beaujolais, près de Lyon, qui compte à peu près 200 titres et qui fait partie donc, des indés de l'imaginaire. Donc voilà, aujourd'hui, vous avez vu, on a une table ronde avec quand même des professionnels, véritablement, de la littérature donc, de l'imaginaire. Ensuite, j'ai Mireille Rivalan, on la présente quand même. Donc, Mireille est directrice littéraire des éditions La Talente à Nantes. Et donc, Mireille, après des études de philosophie classique, du latin, du grec, un passage assez bref dans le professorat de philosophie, elle rencontre Henri Michaud à Nantes qui venait de créer donc La Talente et elle devient directrice éditoriale de la jeune maison d'édition. Et cela fait maintenant 28 ans, c'est ça ? Oui. Ah, ouais. C'est Pierre Michaud. Pierre Michaud, pardon.
Mais la culture parfois nuit à la culture.
Oui, voilà, pardon, oui, c'est vrai. Henri Michaud, mais... Oui, je suis allée trop vite tout à l'heure. Pardon, Mireille. Et Jérôme, donc, Jérôme qui est né en 1976, il attrape à l'adolescence le virus. Ben oui, non, tu vas y mettre. Il est né en 1976 à Paris. Il attrape à l'adolescence le virus de la science-fiction et de la fantaisie et il abandonne ses études de biologie et de grand journalisme, c'est ça, hein, Jérôme, je crois. Voilà. Et il a monté ensuite, il a animé le site ActuSF, donc très informé, très professionnel, qui s'est imposé en quelques années comme la ressource incontournable de l'imaginaire et le partenaire naturel des éditeurs des littératures de l'imaginaire. Et je compte évidemment, ActuSF est aussi donc, maintenant un éditeur donc, des littératures de l'imaginaire. Voilà. Ça va ? C'est bon pour les présentations ?
Oui.
Alors, on va rentrer directement dans le sujet. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, alors je ne sais pas qui, je crois, vous direz, donc qui est à l'origine de ces états généraux de l'imaginaire, pourquoi les avoir appelés comme ça et ben, quels sont les enjeux, les objectifs?
Bien, c'est déjà une question large. Hein. Évidemment, la date de naissance n'a rien à voir hein, dans ces états généraux. Non, simplement, il se trouve que depuis 2 ans, il y a un certain nombre de discussions, alors qui ne se voient pas forcément, sur ce qui se passe en ce moment sur nos mauvais genres, sur nos genres de l'imaginaire, en librairie, en presse ou au niveau des institutions. Il y a eu l'année dernière, suite aux imaginales, un certain nombre de discussions avec des auteurs qui avaient envie de s'engager pour plus de visibilité. Je regarde David Wally qui est devant parce que. Il en discutait. Il y a des éditeurs qui ont monté un syndicat national des éditions de littérature de l'imaginaire à Lyon, donc plutôt des petits éditeurs. Il y a le mois de l'imaginaire qui vous a été annoncé hier. En gros, il y a une collusion des idées en ce moment, c'est-à-dire des discussions qui ont tous, tout du moins, un même constat, tout du moins un même ressenti. Comment faire pour avoir plus de visibilité pour nos littératures sentiment que je mets beaucoup de conditions, mais ça, ça a une importance. Nous avons le sentiment que peut-être nous ne sommes pas représentés tout à fait à notre véritable place. Je le mets avec plein de guillemets. Il se trouve qu'il y a eu un certain nombre de discussions entre éditeurs en janvier et que nous avons décidé, nous avons souhaité lancer des états généraux sur notre jeu. Les états généraux, ils ont deux objectifs. Un, réfléchir à l'horizontale, pas vraiment le mot, mais en tout cas entre éditeurs, illustrateurs, traducteurs, blogueurs, lecteurs, toute l'interprofession, tout notre milieu sur ces solutions. C'est en gros, que ce ne soit pas simplement des éditeurs, des traducteurs ou des auteurs qui donnent leur point d'action, mais qu'on puisse mener une réflexion globale, tous ensemble, sur comment est-ce qu'on peut faire ce jeu. Et comme toute action a besoin de chiffres pour augmenter une réflexion, l'idée c'est aussi d'avoir des chiffres et de mener une espèce d'étude, en tout cas un état des lieux, en tout cas dans les prochains mois, de façon à pouvoir alimenter notre réflexion. En gros, par exemple, sur la presse, c'est d'ouvrir un journal, Le Monde, et on compte le nombre d'articles liés à l'imaginaire dans leurs articles littéraires. Soit ça confirme notre ressenti, donc les littératures imaginaires c'est 5 à 7% du marché global du livre. Soit on confirme notre ressenti, c'est-à-dire qu'ils ont parlé, il y a moins de 5% des articles qui sont liés à la littérature imaginaire. Et donc nous sommes sous-représentés. Il faut réfléchir à comment faire. Soit au contraire, tout va bien, il va à notre juste valeur. Et dans ces cas-là, on leur dit rien, on les encourage et c'est cool. Et si c'est plus, si c'est 2%, surtout on leur dit rien, on les laisse concilier. Évidemment, nous avons plutôt l'intuition que les grands médias ou en presse, il n'y a quand même pas énormément d'articles. Donc il va falloir compter. À partir de maintenant, il va y avoir un travail sur cette recherche de chiffres, cette recherche d'état des lieux, de mesurer un petit peu notre écosystème. Ça veut dire aussi avoir des chiffres et des réflexions sur les bibliothèques, sur les librairies, sur les blogueurs, sur les youtubeurs, histoire de se compter un petit peu. Et à Nantes, au moment des Utopiales, qui est la manifestation avec des imaginaires qui rassemblent le plus de professionnels de la profession, comme on dit, de mener des états généraux, on va avoir des chiffres et des premières pistes de réflexion en proposition. Et à ce moment-là, ça ne fait que commencer. Voilà.
Oui, donc c'est vraiment aussi un souci de visibilité dans les médias. Parce que tu vois, tu as parlé de la présence dans les institutions, mais la présence aussi dans les médias.
Nous travaillons, enfin, nous faisons le constat, mais le monde imaginaire fait le même constat. Hein. Nous avons le sentiment, effectivement, que nous avons un gros travail à faire à destination des libraires, on a besoin des libraires pour ça, à destination des médias, et aussi à destination des institutions. Il y a des actions, il y a des semaines de la poésie, par exemple. On pourrait imaginer une semaine de la science-fiction, avec plein de gens qui vont lire des livres de science-fiction dans les parcs avec des ministères de la culture. Pourquoi pas? Donc, il y a en tout cas un écosystème et une action collective à mener. Sont intelligents politiques. Et là-dessus, on n'a pas toutes les propositions, nous. On attend aussi que plein de gens nous alimentent. Et depuis deux mois, je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de discussions, de propositions, d'envie là-dessus, qui sont juste passionnantes.
Alors, est-ce qu'on peut se permettre de rebondir, Natacha?
Bien sûr, complètement. Parce que, voilà, nous sommes quatre, sachant qu'on a été sept, peut-être par huit. Bon, on ne dira pas qui j'ai dit. Moi-même, je ne le sais pas. Alors, je viens de faire le fil de ce que je voulais dire. Ça ne fait rien, je vais en embrayer. On est quatre. Et surtout, oui, voilà, enfin, ce que disait Jérôme, mais notre départ, ça devrait être d'abord. C'est que qu'est-ce que sont les médias? Je vais faire un peu dans l'historique. Je suis pas née en 76, donc exactement. Mais je dirais que les médias des années 90. Je voudrais pas qu'on fasse croire aux gens qui apportent beaucoup aux médias actuellement, parce que les médias ont changé. Et dans notre souci d'avoir des relais plus proportionnels à notre champ électoral et à la qualité de nos auteurs. Je ne dirais pas que ceux qui sont des médias nouveaux et qui vont se sentent dévalorisés. Soit on en revient au fait que dans le monde de la libération, les autres médias dits nationaux et qui gardent leur prédominance dans le sentiment qu'il y a un tampon culturel mis sur la production, que ce soit cinématographique ou littéraire, on sait qu'ils font peu. Et on sait qu'en plus, quand ils font, comme ils ont l'air de débattre, ils découvrent la vie. Donc, ils peuvent dire, mais le monstre premier, comme diraient les Suisses. C'est pour monstre, ils disent pas comme le monstre. Et ça, ça nous énerve. C'est-à-dire que, d'une part, on veut qu'ils font pas assez, peut-être le bon temps, là-dessus, Jérôme a tout à fait raison, mais en plus, souvent, on est complètement décalé. On trouve leur angle décalé. Dans les années 90, ils n'en faisaient pas beaucoup plus, mais ceux qui le faisaient étaient des gens qui avaient une culture plus généraliste. Donc, quand Patrick Renal tenait la rubrique de littérature de genre du monde, un coup, ils avaient un peu d'art, un coup, ils avaient un peu un coup, un roman de science-fiction, ça tenait à son état de lecteur assez généraliste de ces cultures, évidemment. Enfin, personne ne trouvait à redire. C'était un homme qui avait une importance capitale dans le journal. Il a été ensuite le directeur de ses mémoires. Donc on était face à un intellectuel, un homme important dans le genre, dans le genre de la littérature. Parce que je pense que c'est ça, c'est que c'était tout simplement la littérature qui était traitée. Donc soit qu'on avait. Peut-être que les chiffres seraient les mêmes. Hein, mais par contre. Justesse, une pertinence qu'on ne remettait pas en cause ce que disait Patrick Renal, puisqu'il était lecteur de tout temps, de toute cette littérature. Par contre, il y a un déficit de ces années-là. Et il ne trouve pas tellement, c'est que soit le milieu avec sa boîte d'organisation, il ne fonctionnait pas sans île. On doit connaître les notes sur la science-fiction aux gens qui ont une valeur incroyable, et je pense que j'ai dû mettre du jour parce que. Démarre en cela, il y avait bien d'autres fanzines qui avaient démarré avant l'ancien et avant leur bactère. Mais dans ces fanzines, c'était un tout petit public local, enfin, localisé autour du fanzine qui était concerné. Alors que ce qui est fait actuellement, au niveau des réseaux sociaux et des grâces à Internet, plus fort. Et oui, nous pouvons réclamer une médiatisation plus forte, des grands supports de début. Mais j'aimerais surtout qu'on dise des choses plus justes. Parce que par contre, je trouve que nous avons un relais média grâce à nous tous. Là, il y a ceux qui s'expriment, les lecteurs ne s'exprimaient pas quasiment. Sauf quelques fans qui faisaient les fantasmes.
Oui. Moi, j'ai envie aussi de rajouter qu'aujourd'hui, je pense que l'imaginaire est une culture dominante. C'est-à-dire qu'on voit dans le jeu vidéo, au cinéma, il y a le jeu vidéo, le cinéma, et c'est vrai qu'aujourd'hui on essaie un peu de parquer en littérature. Et c'est moi, j'ai cette sensation, je pense que pas mal de personnes, aussi peut-être en public, que l'imaginaire, en tout cas, on reste un peu dans une niche qui n'existe pas forcément dans d'autres pays. Et c'est vrai qu'on a envie, et pas aux États-Unis par exemple, et c'est vrai que là, le but, comme disait Jérôme Mireille, c'est vraiment d'essayer de faire un état des lieux. Il y a déjà eu ça en BD, il y a déjà eu d'autres secteurs qui ont dû se poser des questions. Et là, c'est vrai qu'on va avoir peut-être besoin de force active, tous ensemble, c'est vraiment essayer d'aller dans le même sens pour essayer de faire cet état des lieux, d'avoir des chiffres et de se dire, bah, on se trompe ou pas, mais en tout cas, essayer d'affirmer l'imaginaire en littérature. Ce qu'on ne peut pas faire, le jeu vidéo, le cinéma et d'autres.
En termes de médias, pour aller évidemment dans le sens de Mireille, dans les années 70-80, pour reculer encore un petit peu, dans les années 70, Jacques Amar, par exemple, il y a évidemment énormément de défendu la science-fiction et la fantasy à travers des anthologies qui ont été tout à fait remarquables, avait une rubrique, une pleine page dans Le Monde, vous voyez, y compris voilà, dans d'autres journaux, dans des magazines qui étaient vraiment des magazines de littérature générale. Donc, ça, c'est vrai qu'il y a eu une vraie déperdition depuis ces années-là. Ça, c'est une évidence.
Il y avait aussi à ce moment-là, il y avait aussi le polar et l'imaginaire qui était un peu dans le même cas. Et autant le polar aujourd'hui va connaître des billets très importants dans Libération, Le Monde, etc. Autant pour l'imaginaire, malheureusement, c'est toujours un peu la même chose.
T'as dit Non, t'as dit
Oui, ben, c'est, je vais dans le même sens, bien sûr.
on ressent bien que toute cette culture, elle fait partie de plus en plus de nous, qu'on a envie qu'elle émerge. Elle est là, et après, c'est comment la diffuser auprès du plus grand nombre. On sent bien à notre niveau qu'il y a les médias, mais il y a aussi le terrain, il y a aussi tout ce qui va être libraire. De plus en plus, on sent bien qu'on a aussi une condition, c'est d'être présent le plus possible dans les librairies. Et on se rend compte aussi que c'est pas si évident ça pour les libraires d'avoir un rayon imaginaire, parce qu'il peut y avoir des blocages, on sent que les gens ont besoin d'être formés. Beaucoup nous disent ben non, on n'a personne pour le vendre, donc il y a des barrières encore. Et ça va être aussi de voir ça, comment faire pour aller jusqu'à vos lecteurs du mieux possible, à ceux qui ne connaissent pas encore, à leur montrer, à leur vendre et à leur faire découvrir et lire.
Alors justement, d'après vous quatre, quels pourraient être les différents acteurs de ces états généraux, c'est-à-dire, autrement dit, comment impliquer par exemple, bon, on l'a vu, les auteurs ou d'autres acteurs, comme par exemple les journalistes, les critiques, les documentalistes, les bibliothécaires, les libraires, les blogueurs, voire les universitaires à la fin, toujours un peu, mais je n'ai pas donné quand même.
Alors, on va parler d'organisation. Ce qui est génial, c'est que nous essayons d'inventer des systèmes. Peut-être qu'on se trompe, mais on a envie de travailler avec quatre groupes différents. Il y a un premier groupe sur l'organisation même des états généraux. Donc, en gros, comment est-ce qu'on fait de la communication autour des états généraux? Et puis, le jour même, si on est 300 dans un amphithéâtre, en gros, comment est-ce qu'on indique les toilettes? Très, très concrète.
La logistique.
La logistique, mais aussi la vie de l'appel, la vie de la communication, puisqu'il est évident qu'il va bien falloir qu'on va continuer à prendre la parole entre maintenant et le mois de novembre. Si le mois de novembre, c'est prêt à fond. Derrière, on a l'idée, c'est qu'on a un groupe sur l'état des lieux, donc des gens qui vont aller chercher un maximum de chiffres. On a déjà des bibliothécaires qui se sont signalés, qui ont envie de remonter des chiffres de bibliothèques, soit qui s'investissent dans la littérature imaginaire, soit qui ne s'investissent pas, de façon à pouvoir faire des comparatifs. On a la même chose sur les universitaires, et on a également la même chose sur tout un tas de gens, sachant qu'il y a les chiffres actuels sur notre monde, et puis il y a aussi plein de témoignages. Donc, par exemple, Gaël Rock, qui est martiniquais, va nous faire un pari, qui est youtubeur. Lui a très envie de bosser un peu sur YouTube, de savoir à peu près le nom, mais aussi nous apporter un témoignage sur comment ça se passe en Martinique. Après tout, je n'en ai aucune idée. Et on a la même chose sur la Belgique et la Suisse. Enrichissons notre état des lieux de témoignages différents. Et puis après, on a des groupes de réflexion, trois groupes, avec effectivement, ça fait cinq groupes, donc on a trois groupes de réflexion en parallèle à partir de maintenant sur. Comment est-ce que, donc du coup, quelles sont les propositions qu'on pourrait apporter sur l'amélioration du RI, l'amélioration en presse et l'amélioration des institutions. L'enjeu pour nous est simple, c'est que dans tous ces groupes, nous ayons un petit peu toute l'interprofession qui soit représentée. À partir de maintenant, nous avons créé un adresse email qui s'appelle l'appel de l'imaginaire à proquet.com.fr. Proton mail, on vous donnera l'adresse internet. moi j'ai commencé déjà, il y a pas mal de gens qui sont venus voir, donc j'ai commencé une petite liste, et puis après les imaginaires, on se répartit un petit peu le job en fonction de ceux qui ont envie de s'investir. L'idée quand même, c'est qu'il y a beaucoup d'envie et beaucoup de discussions intéressantes. Donc lorsque des gens souhaitent venir travailler, évidemment qu'on ne va pas les forcer, et qu'ils s'inscriront un peu dans les groupes tous, avec lesquels ils veulent bosser, quoi. Et puis dans chaque groupe, on se répartit le travail et on avance.
Concrètement, Jérôme, on aura par exemple pensé à la création d'un site pour peut-être pour remettre par écrit et tout ce qu'on
pourrait dire. Exactement, on a réservé les noms de domaine. Déjà, il y a une page, il y a des groupes Facebook cachés qui sont tout prêts à adresser les discussions pour les initiés qui voudraient débattre. Et puis, sur le site internet, je pense qu'on va faire simple sur la présentation des états généraux parce que. Ce qui est intéressant, c'est peut-être pas de publier à chaque fois qu'on a une réflexion, mais d'avoir vraiment un bilan lors des états généraux à Nantes, hein, présentation véritablement des réflexions et des évolutions à partir de ce moment-là. Et puis après, on n'a pas encore choisi, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir de maintenant, l'action, elle nous appartient, mais les valeurs. Et déjà dans les discussions, on voit plein de sujets, plein de propositions, plein de choses, plein d'idées auxquelles on n'aurait pas forcément pensé.
Tu pourrais nous donner un ou deux exemples comme ça d'idées qui ont émergé, par exemple, d'idées auxquelles vous n'avez pas pensé peut-être au départ?
Ah ben, j'en ai plein, ça va de la représentation des auteurs à la médiatisation, ça va aux bibliothèques. On n'avait pas pensé aux bibliothèques. Hein. Les bibliothèques, c'est... Non, mais c'est pas qu'on n'a pas pensé aux bibliothèques. Audrey Burki, arrête. Mais on a un attrait des bibliothécaires qui est fort et qui est absolument génial. Bon, par exemple, Fred Malbezin, de la bibliothèque de mes yeux, a une bibliothèque, elle, qui a un rayon, un club de lecture et une manifestation. Elle a une bibliothèque un peu pilote en la matière. Elle a un certain nombre de relais, elle se propose de faire des différentiels entre des chiffres, entre la médiathèque de Béziers, qui est une médiathèque généralisée, qui a priori n'est pas beaucoup en avant imaginaire, je crois pas qu'il y ait une et la médiathèque de Béziers qui est proactive. À partir de ce moment-là, on pourra dire, voilà, étude de cas comparatifs. Ici, il se bouge, et vous voyez bien qu'il y a une rotation, il y a des ventes et il y a des lecteurs. Ici, il ne se bouge pas, il ne se passe pas grand-chose. Je pense à d'autres exemples sur la presse. On a été à Mons, on a travaillé, on a discuté avec par exemple Sylvie Philippard de Saint-Foy, ou en tout cas les Belges, qui ont très envie de nous apporter les témoignages belges. Mais c'est vrai que ces témoignages complémentaires, on n'y avait pas forcément pensé. Quoi. On a des gens qui ont des amis sociologues, donc forcément, ça va nous aider dans la réflexion d'avoir des gens qui ont un autre point de vue par rapport à ce qu'on fait. On a des gens qui naturellement viennent nous voir. La RAL, l'agence du livre en région Rhône-Alpes, tient absolument à ce qu'on ait un rendez-vous, donc on a pris date ensemble, pour parler des états généraux. Donc une institution qui voit un mouvement et qui se dit « Ok, on a envie de discuter et de proposer. » Donc voilà. Après, ça va générer réflexion sur est-ce que les auteurs qui sont en costume dans des dédicaces, par exemple. On a des choses aussi rigolotes que ça, mais pas que, c'est une réflexion pour moi.
Autre question quand même, qui moi me semblait importante, est-ce que l'objectif finalement serait de faire dialoguer, alors peut-être pas des mondes qui s'ignorent, mais au moins des mondes qui se méconnaissent. C'est-à-dire que, est-ce qu'on mettrait en réseau, justement, là, d'après ce que tu dis,
Au sein de la profession ou entre les métiers?
Non, je pense, peut-être pas dans la profession, parce que vous êtes quand même bien les éditeurs, par exemple, mais mettre avec une brève, mais mettre en lien, par exemple, une partie du fandom avec les professionnels, avec d'autres types de professionnels.
Il faut que nous vivons des temps historiques. Le monde ne sera plus jamais comme avant. Je le dis en plaisantant, mais regardez ce qui se passe. Vous avez un mois de l'imaginaire, d'accord ? Vous avez 15 éditeurs qui mènent une action collective. Ça ne s'était jamais fait. Lors des discussions, nous mettons autour des tables, on a une discussion à 25, 30, il y a 3 jours, hein, dans un petit apéro informel, avec des blogueurs, avec des éditeurs, avec des auteurs, avec des traducteurs, avec des bibliothécaires, vous verrez. Donc, on a une interprofession qui se parle, et qui se parle sur des sujets sérieux et qui s'écoute. Et avec parfois des discussions, on a toute une discussion sur le monde du cinéma, par exemple, sur les comparatifs, assez étonnant. Donc, oui, les états généraux, ils ont une position dans cette vertu-là, c'est à l'horizontale. Donc, nous discutons tous ensemble, il y a une position dominante ou autre, et il y a déjà des gens qui ne sont pas éditeurs, qui sont déjà proactifs dans ces états généraux.
Effectivement, la question c'est de sortir de nos chapelles. Elles sont différentes de décennie en décennie. Et ce que dit Jérôme, ça pointe entre nous.
chacun l'un d'entre nous. Je pense à Mémos qui a passé dans le jeu. Et nous avons, nous pouvons mettre en commun. C'est vraiment ça la nouveauté. C'est que nous avons tous pu faire fonctionner, sinon nous ne serions pas là. Nous ne serions pas actuellement encore existants si nous n'avions pas tous plein de petits trucs pour installer le monde de l'imaginaire dans un réseau. Simplement, ces réseaux étaient assez finalement régionalisés. Comme Jérôme parle de la rade, notamment de la rade, bien, mais de la Talente, mais pas bien de la rade, mais n'est pas un acteur de cette région. On ne peut rien envisager de faire avec la rade. Nous avons une région qui ne peut pas envisager de faire quoi que ce soit dans la culture. Et on veut dire maintenant la culture et l'affaire de chacun. Ça c'est fait. Toujours est-il que ce que propose là, les gens qui sont dans cette région, c'est tout ça de proposer que la rade pense à l'imaginaire en général. Moi, je suis extrêmement touchée par ça. Sachant que la rivalité de la librairie de la Talente, qui dans son ancrage avec un lectorat, qui se croise avec la BD, avec le polar et le cinéma original, aussi apporter notre expérience. Donc on l'a fait quoi tu veux. C'est ce qui a permis que la Talente existe encore, c'est concret. Nous voulons bien le mettre en commun. Nous n'allons pas tous garder nos petites listes. Et ça, c'est encore, j'ai connu le passage à Internet, c'est que nous ne pouvons plus garder secret et toutes recettes. Voilà. Nous allons pouvoir effectivement vivre collectivement la médiatisation de l'imaginaire.
Je rajoute un truc. Nous ne sommes pas éditeurs, nous ne sommes pas auteurs de science-fiction par opportunisme. Comprenez, si on voulait vraiment faire des sous, on irait faire autre chose. D'accord. Nous sommes tous des passionnés. Si vous êtes là aux Imaginales, c'est qu'a priori, vous aimez plutôt la science-fiction ou la fantasy. Ou alors, on vous a fait croire que c'est un savon sur la cuisine et vous pouvez en vouloir à quelqu'un. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons tous un pot culturel commun. Nous avons tous un attrait pour le genre et nous avons tous un bien commun. Nous sommes le petit peuple de la science-fiction et de la fantaisie. Et que, du coup, les réflexions qui sont menées, elles ne sont pas menées par corporation ou par intérêt personnel, elles sont menées pour le bien commun qui sont les gens de l'imaginaire. Et c'est en ça que les discussions sont riches. Parce que, du coup, chacun pense au total. Et c'est en ça que les états généraux sont vertueux. Parce que, du coup, chacun pense au bien commun total. C'est comme ça qu'on fera avancer les choses.
On aurait besoin d'un discours aussi vertueux que le tien. Bien, on arrive à peu près à la moitié donc, du temps qui nous est imparti. Donc maintenant, on va vous donner la parole. On a essayé de vous expliquer voilà, ce que c'était que ces états généraux, les actions donc, moins concrètes qui vont être menées, les dates, un petit planning. Donc maintenant, ben, on attend votre retour, vos questions. Je crois qu'on va faire passer la baguette. Voilà. Merci. Bonjour, donc Lady Chapillon, je m'occupe du webzine Le Petit Vaporiste. Et donc, je suis professeure des écoles et je suis doctorante en sociologie de l'éducation. Et dans tout ce que vous venez de dire, je remarque qu'on ne parle pas des enseignants. Or, je pense que ce qui se fait en classe compte beaucoup pour la vision qu'on peut avoir d'un type de littérature. Je connais quelques enseignants qui, à la marge, vont faire étudier des livres de science-fiction ou Game of Thrones, des choses comme ça, mais je pense que, de ce que j'en vois, c'est assez rare. Et il y a peut-être aussi une réflexion à mener du côté de l'école et des enseignants.
Happy together, nous sommes dans l'envie et dans l'enthousiasme, et de temps en temps, nous oublions des gens. Et évidemment, les enseignants sont les bienvenus, et ils sont très importants. Il n'y a pas de souci là-dessus.
Et justement, c'est le lancement de ces états généraux. Ces états généraux ici, ensuite la tenue des états généraux, c'est aussi pour compter les trompes. On s'est rendu compte depuis, alors, voilà, qu'il réfléchissait depuis 2 ans, moi je vous avouerai que j'ai été un petit peu raccrochée à cette réflexion collective en décembre, janvier. Et en fait, ce qu'on s'est dit depuis le départ, c'est que de toute façon, il y aura toujours l'une personne pour activité qui dira pas zut. Ça d'emblée avec toutes choses, c'est que oui, toute personne qui dit. qu'il y a effectivement des enseignants, et c'est là encore dans les institutions, pense effectivement, on a parlé des médias institutionnels, on a parlé des ministères, le CNL, le Syndicat national de l'éducation, sans doute, le CNL, c'est le Centre national de livres, qui a des aides aux éditeurs et aux auteurs. Je pense qu'effectivement, l'éducation nationale, il aura besoin de relais pour ça, parce que, en plus, professeurs des écoles, professeurs de collège, professeurs de lycée, professeurs d'université, j'ai le sentiment, c'est qu'à loin de mon champ personnel actuellement, c'est quand même des relais différents. Et effectivement, il faudra me dire, il faudra se dire qui peut le faire, s'il faut adhérer dans le programme, quel est le lobbying, parce que là, on a affaire, je parlais de politique, hein, c'est la question de, sans doute de forme de lobbying qui peuvent être alimentées, mais selon des structures qu'on souhaiterait actuellement organiser. Justement. Je crois que c'est ça que les états généraux, c'est organiser toutes ces idées que chacun a déjà eues dans son coin et a réussi à faire pour les éditeurs, celle-ci avec la RAD. Donc certains enseignants avec leur propre directeur de collège et au switch académique, on voit à la talente, aux utopiales, voilà deux casquettes qui se mélangent, aux utopiales, en fait, parce que comme ici, un travail sur les scolaires qui viennent, à travers des concours de nouvelles, qu'un enseignant s'engage, mais tout ça de façon tout à fait volontaire, sans synergie qui remonte vers les institutions.
Oui, et ce matin à 9h, il y avait aussi une rencontre avec les bibliothécaires, les documentalistes qui rencontrent vraiment les mêmes problèmes. Et en fait, l'appel de l'imaginaire, grosso modo, c'est montrer que vous existez, proposer, parce qu'on n'a pas la science infuse, on ne sait pas, on connaît une petite partie de la problématique, donc faites-vous connaître et proposer.
Je voulais juste rajouter aussi que finalement, on a pas mal d'auteurs qui sont enseignants. Aussi, donc c'est les premiers faits qui vont pouvoir aussi porter tout ça dans l'éducation nationale. Après, c'est plus de rassembler ces initiatives et de voir comment on peut faire. Ça va surtout servir à ça, c'est que de cadrer un peu plus pour que les actions aboutissent et qu'on puisse faire de ces initiatives personnelles quelque chose de plus conséquent ensemble au même moment, dans un même mouvement, arriver à un but de la promotion de l'imaginaire.
Je crois qu'en ce qui concerne l'enseignement, d'abord il y a plusieurs strates, parce que malheureusement il y a différentes institutions. Donc en ce qui concerne le primaire, ce sont les inspections académiques, ensuite collège et lycée, ce sont les rectorats, puis après on a un chef d'université, donc fonctionne en autonomie, il serait peut-être un des points les plus importants, et bien ce serait de recenser à travers tous les contacts et les relais que nous avons sur le territoire, essayer de voir combien il y a d'actions qui sont dans les écoles, parce que nos auteurs, par exemple, les auteurs jeunesse participent très très souvent à des rencontres avec les écoliers, les enfants de primaire, avec les collégiens, avec les lycéens, donc essayer de voir ce qui se fait pour justement, comme disait Jérôme, faire cette espèce d'audit. Et vérifier comment est-ce que finalement l'imaginaire, les auteurs de l'imaginaire, les projets autour de l'imaginaire sont présents effectivement dans l'éducation nationale et en secondaire supérieur. Tout à fait. Ça, je pense que ce serait une première étape et après proposer d'autres choses. Bien sûr.
J'ai constaté, j'ai le sentiment que, par exemple, les professeurs de collège qui sont très actifs dans le contact avec les auteurs, sans doute, c'est plus compliqué de s'adresser à leur institution pour valoriser les gens. Ils ont trouvé bien des prix. Beaucoup d'auteurs vont dans les collèges, mais parce que les professeurs de collège s'abonnent, lancent eux-mêmes des prix collégiens. C'est très bien de parler, mais c'est effectivement peut-être aussi déjà une stratégie d'évitement par rapport au rapport à l'institution de même.
À noter qu'il y a aussi une piste qu'il faut absolument, sur laquelle il faut surfer, les auteurs. Le manuel scolaire s'intéresse de plus en plus aux auteurs de l'imaginaire. Par exemple, j'ai des extraits dans le manuel 3e, des extraits de Pierre Bordage, mais d'autres auteurs. La nouvelle revue pédagogique, on va faire un dossier sur la science-fiction, on va faire un dossier sur la dystopie. Donc, ils voient que ça fonctionne. Ça, voilà. Là aussi, dans l'édition scolaire, je pense qu'il y a des pistes, des contacts à avoir.
Bonjour. J'aimerais aussi lancer une proposition, ce serait au niveau des champs psychologiques, puisque les littératures imaginaires sont beaucoup lues par les jeunes, et peut-être voir les influences que ça peut avoir sur le lectorat du point de vue psychologique.
Excellente proposition. Les lecteurs d'imaginaire sont tous psychopathes à la terre. Pas forcément. Non, non, mais voilà typiquement le type de proposition. Alors, ça peut être très intéressant. Notre seule difficulté, c'est de trouver un certain nombre de gens qui sont prêts à travailler en 5 mois sur ce champ-là. Si vous avez envie de travailler là-dessus, toute seule ou avec d'autres gens, pour présenter des conclusions lors des états généraux, bienvenue. D'accord ? Ça nous alimentera tous pour savoir si vous consultez tout de suite ou pas. Quoi. D'accord ? Ou peut-être les thésards, ou il n'y a pas de problème. Faisons, lançons-nous, et puis on verra, et puis peut-être qu'on se dira que ça n'a pas abouti parce qu'on n'a pas assez de monde qui travaille, mais au moins on aura pris, on aura mis un embryon en réflexion là-dessus.
Oui, il y avait une jeune femme qui voulait intervenir. Oui, allez-y. Moi je voulais revenir sur ce que vous disiez au début, il y avait une certaine dichotomie dans le discours, puisque vous disiez qu'il y avait une surreprésentation de l'imaginaire parce que c'est un genre très populaire, le jeu vidéo, le cinéma aujourd'hui, c'est des gros cartons finalement, ces genres-là. Et à la fois, vous disiez qu'il y avait une sous-représentation dans les médias. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, ce que vous dites dans le discours, c'est qu'il y a une surreprésentation d'un certain type d'imaginaire grand public et une sous-représentation de ce qui va se faire indépendant. Et je pense que c'est important de souligner cette dualité, en fait, de cette importance du genre aujourd'hui dans la culture populaire, et en fait sa sous-représentation dans tout ce qui est là, voilà, d'indépendant, de plus bizarre, en fait, de cette représentation-là.
C'est la problématique du ruissellement, et c'est la grande schizophrénie de notre monde. En gros, c'était pas tout à fait comme ça quand j'étais jeune. Désormais, se déguiser en elfe ou déclarer qu'on aime Star Wars et se battre avec avoir un sabre laser dans son salon, c'est pas grave, tout ça plutôt cool et ça pose pas de problème. Et on peut faire plein de blagues avec des bouts de pieuvre, c'est tout beau quoi. Vous pouvez essayer en famille, mais c'est plutôt cheap, mais en tout cas, ça s'essaye. Donc nous sommes dans un monde, c'est ce que disait Nathalie, nous sommes dans un monde imaginaire. En gros, blockbuster au cinéma, la BD, les jeux vidéo, le jeu de rôle qui a revenu en France, nous sommes là-dessus. Nous constatons un certain nombre de problématiques liées aux littératures. Alors les littératures sont pourtant indécentes et indécentes fortes. Donc comment est-ce qu'on fait ? Et on a d'autres problématiques. Hein. En gros, on fait des livres, on a 80 000 personnes aux Utopias qui viennent, c'est pas rien. On a un certain nombre de milliers de personnes, de gens qui viennent aux Imaginales, je ne vais pas donner de chiffres, mais ce n'est pas rien. Et on constate un certain nombre de difficultés dans l'accès à nos livres. Okay. Réfléchissons à ça. C'est effectivement une grande dichotomie.
Mais je vais rebondir sur quelque chose qui paraît capital, c'est qu'en fait, nous sommes des défenseurs de la littérature. Le livre n'est pas. La lecture n'est pas plus mise à mal que ça, mais elle a des supports différents actuellement, parce que les gens qui vont faire des jeux sur Internet vont aussi un acte de lecture. Donc il y a des choses à lire. Mais par contre, la littérature, dans la concurrence qu'elle vit avec toutes les activités possibles à travers les supports d'écran, c'est le simple support papier. Et sur les écrans, on fait plein d'autres choses que les livres. Les romans. Et le roman, simplement. Donc, comment on s'en sort de choses-là ? Et je pense que la littérature dans son ensemble a quelque chose de incapable. Genre autre que l'imaginaire a actuellement des lecteurs la science-fiction. Quelle autre forme de littérature peut prétendre à ça ? Aucun. Or, le lecteur d'aujourd'hui est le lecteur de demain. Donc, je pense que nous avons même le cercle d'acteurs que nous espérons pour nous, en fait, c'est le cercle d'acteurs de la littérature de la vie. C'est pour bien expliquer.
Même des lecteurs qui sont nés avant 1976, c'est vous dire.
Et en plus, nous avons une littérature transgénérationnelle. La SF ne l'avait pas faite toute seule, la fantasy l'a permis. Donc, je pense que nous sommes des. Nous œuvrons pour des discussions et enflammées et apaisées. Les gens de 15 ans donnent à leurs grands-parents à lire. Le grand paradoxe aussi aujourd'hui de la production de la littérature, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de titres sortis à chaque rentrée littéraire. Il y a énormément de salons de festivals, hein, et pourtant, on se trouve effectivement devant.
Il y a ça, et puis on a des plafonds de verre. Donc, par exemple, quand mon diffuseur-distributeur fait une réunion entre des éditeurs et des libraires pour la rentrée littéraire, évidemment, je vais. On est d'accord. Et nous avons, c'est la rentrée littéraire, c'est de la blanche. Aujourd'hui, bah, vous ne leur dites pas. Et puis, bah, si vous lancez de base, c'est qu'on se sera trompé. Donc, en fait, on a aussi un certain nombre, et c'est la vertu des états généraux aussi, c'est qu'on soit assez nombreux pour faire exploser certains petits plafonds de verre comme ça, quoi. Certaines bêtises qui nous empêchent de pouvoir travailler pleinement comme on l'entend.
Ouais. Alors, c'est les petits plafonds de verre qu'on a créés nous-mêmes. Ah, ben oui, moi, volontairement, par exemple, on a trouvé absolument très confortable dans les années 90, c'était un petit tour de province. C'était quand même absolument. On mettait, quand j'avais quelqu'un à Paris, hein, on mettait les lettres de la rue on mettait mon Parnasse, M comme Maurice, O comme Olivier, M, parce que j'avais dit que j'étais morte. Donc j'appelais ça les dom-tom. Et donc ça, quand même, voilà, on trouvait ça peinard, on était vraiment pris pour les indigènes le matin. Toutefois, on a trouvé ça très tranquille, et toi, moi, longtemps, et même peut-être encore, je dis, voilà, rentrée littéraire, j'en ai mon date, parce que c'est un moment où tellement de gens s'écharpent, que si on tombe dans les trous, au moins, on est vu. À ceci près que la littérature et la littérature blanche ont bien plus de soucis que nous. Médiatisation plus affirmée, mais en fait, la quantité beaucoup plus d'échecs, une modeste quantité de scandales, parce qu'un livre qui se vend peu n'est pas la plus grande publié, mais qui se vend peu, c'est pas non plus un acte criminel. Mais je pense qu'effectivement, ils se sont quand même vus en difficulté, et donc du coup, ils ont réinventé une rentrée de janvier pour la littérature blanche. Je les déteste. Parce que c'est là et que je. Donc, du coup, effectivement, moi, changer la vie. C'est la vie de changer la vie. Nous avons fait plein de choses, nous, à l'endroit qui nous semblait super confortable. La question de la niche est très confortable. Puisque vous pouvez tirer votre épingle du jeu en tant que niche, parce que vous avez un public identifié. Celui-là, il viendra forcément vers vous, et qui ne demandera pas trop d'efforts à l'ensemble de la chaîne. C'est donc peut-être là-dessus. Ouais, moi, franchement, le plafond de verre, j'en ai trouvé ça très confortable. Je ne le vivais pas comme ça. D'ailleurs, tu le nommes comme ça, et je t'en remercie parce que c'est quelque chose que moi, je n'avais pas nommé. Donc, le plafond de verre. Effectivement, la reprise littéraire, je disais, bon, ben, super, on va pouvoir publier ce qu'on veut. Quand on était en septembre, on n'est pas obligé de se coller les marges. Vous voyez ? Et du coup, peut-être que c'est là-dessus qu'il faut revenir. Merci, Mireille. D'autres questions ?
Christophe Thiel, Malpertuis. Jérôme a parlé tout à l'heure de la participation de sociologues au projet, ce qui me semble être une bonne idée. Moi, je voudrais inviter chacune et chacun à être un petit peu sociologue à sa manière. Ce que j'entends par là, c'est se poser des questions sur les choses qui sont tellement évidentes, qui appartiennent au domaine du langage. Je l'ai dit, on ne s'interroge pas en général. Voilà, en général, c'est là qu'on peut trouver des réponses à pas mal de questions. Et je vais appliquer ça immédiatement. Je ne dis pas que je vais donner une réponse, mais au moins une question. À propos de ce que j'ai entendu et de ce qui peut éventuellement apparaître comme une sorte de grand écart entre, d'une part, un plaidoyer assez fort pour les littératures de l'imaginaire
littérature, et d'autre part, des termes que j'ai entendu employer. Je comprends la tendresse qu'on peut avoir pour ces termes, mais des mots comme littérature populaire et surtout mauvais genre, voilà, je comprends qu'on les utilise, mais je pense que ce serait bien de s'interroger sur l'impact que ce genre de termes peuvent avoir.
Nous sommes souples. Pas à titre personnel. D'accord. Sur la question des termes, et même sur la question des termes des états généraux, dans toute production de discours, et on a eu la même interrogation il y a 20 ans sur la littérature de l'imaginaire, quand il a fallu séparer science-fiction et fantasy, quand on parle de mauvais genre, par exemple, pour moi, c'est pas un gros mot, et ce sont des termes qui identifient. Donc, il faut se poser la question de savoir s'il faut les employer ou pas.
Elles ont
un impact. Mais je rappelle que dans les mauvais genres, il y a le polar, et qu'a priori, il y a les surclats qui disent c'est du polar. Donc, peut-être que c'est grave pour nous, mais que c'est pas grave pour eux. Tu vois ce que je veux dire? Néanmoins, la question des termes, elle est intéressante, elle est importante, et nous aurons besoin de production de contenu intellectuel sur les littératures d'imaginaire. Comment est-ce qu'on appelle ça? Mais même littérature d'imaginaire, c'est quelque chose qu'on a. Et on peut se poser la question de savoir si c'est pas finalement une appellation par défaut de notre genre. Enfin,
moi, janvier dernier, l'une des premières questions qu'on s'est posée, c'était comment appeler ça, en fait. Je me rappelle parce que. On ne sait pas s'il y a de réponses, de bonnes réponses en fait. Donc, pareil, littérature d'imaginaire, certains disent toute la littérature est imaginaire. Enfin, trouver un terme, c'est toujours très très difficile finalement. Donc, pareil, si vous avez une meilleure proposition, on est preneur.
Et l'université, par exemple, moi j'étais confrontée à ça, à utiliser des termes comme, par exemple, moi je suis totalement contre la paralittérature, la sous-culture, l'infraculture, enfin. Des termes qui à chaque fois étaient dévalorisants, alors qu'en réalité, je veux dire, c'est de la littérature de façon générale. Donc pourquoi paralittérature? Enfin, ce sont des théories qui ont été soutenues, qui se sont effondrées d'ailleurs les unes après les autres, mais qui ont encore la vie dure. Et je crois que ta remarque, Christophe, est vraiment très très pertinente parce que de la dénomination va découler quand même une représentation. Ça, c'est vrai. Hein, tout à fait. Et il faut peut-être réinventer quelque chose.
Justement, il faudra peut-être se confronter. En tant qu'éditeur, nous avons eu le sentiment que certaines personnes dans la chaîne de la mise à disposition de la littérature avaient besoin de cases. Et là, effectivement, je pense au livret et au livre. C'est-à-dire qu'il fallait ranger. C'était le sentiment que toutes ces littératures historiques, polar, science-fiction, fantasy, comme le financier, remplissaient. Là, avec l'évasion, on visait en fait le lecteur. Vous voyez, ça va être quoi dans ta vie ce qui va se passer à ce moment-là? Tu vas t'évader, c'est elle, le type, les arbres, tu vas faire une et donc, du coup, on n'a non plus l'objection. Au moins, on se dit, wow, ça, c'est des livres que les gens. C'est tous ces livres que les gens vont choisir de lire par eux-mêmes sans être obligés de le faire à l'école. Par contre, cette chose-là a dû évoluer après, mais je ne suis pas certaine que. Nous, on a eu le sentiment que c'était les libraires et les bibliothécaires qui avaient besoin qu'on rentre. Et ça, c'est une partie des choses qu'on va pouvoir discuter ensemble. Parce que finalement, on se contraint les uns les autres. Ça dépend des valeurs.
Si je peux faire une intervention, Jean-Charles Fitte aussi, premier chapitre. Ce matin, si on l'a rappelé, on a lancé une initiative, premier chapitre des imaginales à destination des bibliothécaires, et on s'est posé évidemment le problème que vous évoquez, le problème du nom. L'initiative va s'appeler Nouveau territoire de fiction. L'idée étant justement de ne pas donner dans l'appellation une référence à un genre particulier, mais de montrer finalement
Comme ça, c'est facile. Et on avance.
Il y avait un jeune homme qui avait une dernière question. Moi, je vais être obligée de vous laisser parce que j'anime une autre table ronde à Magique Miroir.
Du coup, ce qui se passe maintenant, ceux qui sont intéressés, vous venez me voir, je prends les mails. À partir de la semaine prochaine, je commence à renvoyer tout le monde les adresses pour les pages Facebook cachées. Et puis, on discute tous ensemble.
Merci beaucoup.